Voilà, bonjour à toutes et à toutes. Très heureux de nous réunir ensemble ce matin. On va célébrer Dieu pour sa grâce infinie. Il y a quelques années en arrière, j'arrivais pas à saisir qu'est-ce que la grâce. On me donnait une définition, on me disait c'est une faveur que je ne mérite pas, une faveur que je ne mérite pas. J'avais du mal à comprendre parce que j'avançais dans ma foi, j'avançais en tant que chrétien. Il y avait des domaines auxquels j'avançais et puis il y avait des domaines où j'arrivais pas à changer. C'était dur, des hauts et des bas. Puis à un moment donné, en écoutant quelqu'un parler de la grâce, il m'a aidé. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, Mathieu, la grâce c'est avant tout une personne. Et cette personne c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne ce modèle de vie, Jésus qui justifie, Jésus qui pardonne, Jésus qui relève. Et ça m'a aidé parce qu'en regardant les yeux fixés sur Jésus, sur son modèle de vie, moi ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Alors on va célébrer Dieu au travers de cette grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin pour celles et ceux qui le peuvent? Et on va chanter la grâce seule.
Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule. Que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas.
On t'attend les mensonges.
Justifier ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté.
M'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie. Ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé.
Ta grâce ne faillit.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce
purifie, m'offre la vie,
ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné,
ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré,
ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
Est-ce qu'on peut juste prendre un temps pour réaliser juste ces paroles ? Libération, justification, être affranchi. Sa grâce qui nous purifie. Peut-être quelqu'un a besoin de sentir un temps de relâchement, un temps de libération, un temps de pardon, un temps où Dieu veut juste encore venir pardonner, rafraîchir l'âme de quelqu'un. Peut-être que le puits de ton âme est un peu bouché et l'eau vive a du mal à sortir ce matin. La grâce de Dieu, c'est que Dieu te fait grâce, non pas à cause de tes performances, mais à cause de ce qu'il a fait à la croix pour toi. Du coup, tu peux venir devant le trône de la grâce, dit Dieu. Et tu peux venir et juste t'épancher, dire: Seigneur, cette semaine elle a été ce qu'elle a été, mais je vais être renouvelé dans ta présence ce matin. Je veux garder les yeux fixés sur toi et encore, je veux renouveler mes pensées, je veux qu'elles soient vraiment focus sur la personne de Jésus-Christ ce matin. Toi qui es le lion, qui es l'agneau, c'est des images pour présenter le Christ comme celui en même temps qui s'offre, mais en même temps celui qui est le lion, hein, celui qui rugit, les ennemis s'enfuient, celui qui a toute marque d'autorité. Que ce matin, vous puissiez prendre part vraiment à un temps de rafraîchissement. Il fait chaud à l'extérieur, un rafraîchissement à l'intérieur. Que Dieu vraiment bénisse l'Église, que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes présents avec nous ce matin. On ne veut pas juste vivre une célébration à un culte, on veut rendre un culte à Dieu. C'est ça notre cœur. Et là où est la louange, là est la liberté ce matin. Là où est la louange, là est la victoire aussi ce matin. Voilà notre cœur, notre déclaration. Le lion et l'agneau, Jésus-Christ, on va le proclamer. Maintenant.
Du monde.
genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Devant lui, notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
Amen. Tout genou, tout cœur. Ce matin, l'idée, c'est d'entrer en soi-même. L'idée, c'est d'être ouvert à ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir, ce que Dieu veut dire dans nos cœurs. Et on va continuer en proclamant qu'il est saint. Notre Dieu est saint.
Vous qui l'a rachetez.
chanter ce cantique à l'agneau.
Vous qui l'a libéré,
vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau.
Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je t'ai saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple
ensemble, élever le nom de Jésus. C'est peut-être le bon moment de s'unir en prière et de dire oui, comme les anges dans le ciel qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Seigneur, nous élevons nos voix ensemble ce matin. Nous sommes là dans ta présence. Nous chantons ta sainteté, même si nous ne saisissons pas tout ce qu'elle peut représenter. Nous savons une chose, c'est que ta sainteté change nos vies, Seigneur Jésus. Ta sainteté, elle libère, Seigneur Jésus. Ta sainteté, elle donne un regard sur l'autre. Seigneur, merci vraiment d'élever ta personne au milieu de nous. Seigneur, nous voulons, oui, nous élever ta personne. Nous voulons croire que tu es ce Dieu qui a toute puissance, toute autorité pour sauver, pour guérir, pour délivrer encore ce matin. Nous ne sommes pas juste rassemblés là, Seigneur, pour patienter que tu vas agir là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et tu agis, Seigneur, tu viens répondre aux prières de la foi, Seigneur Jésus. Voilà notre déclaration. Tu es saint, ton peuple crie, tu es saint. Que ceux qui sont à l'aise avec le fait de pouvoir prier à haute voix ce matin, cette maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. J'en appelle à toutes les nations pour élever le nom de Jésus, le nom du roi des rois. le nom du ressuscité. Seigneur, viens nourrir la vie spirituelle de l'Église, Jésus. Un temps de louange pour ta gloire, un temps de louange pour ta gloire, un temps d'adoration, Jésus. Ton nom est plus grand, ton nom, Seigneur. Ton nom. Et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, proclamons-le, ton nom est le plus grand, ton nom. Et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
Puissance.
Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus.
Et les anges acclament, et les anges acclament.
Tu
L'univers proclame,
tu es saint,
tu es glorifié,
Dieu très saint,
à jamais tu es saint. L'église de l'épi, ton peuple, tout ton peuple crie ensemble. Toi le roi des rois, disciple de Jésus,
tu es saint,
Dieu d'éternité,
Dieu est saint,
à jamais tu es saint, Dieu d'éternité,
Dieu d'éternité, tu es saint.
À jamais tu es saint, Dieu d'éternité,
tu es saint,
à jamais tu es saint. Bah écoutez, une pensée, on peut rester debout pendant cette pensée parce qu'on va continuer à être dans la proclamation, on va peut-être même y répondre en prière, en adoration. Il faut juste que tu viennes par ici, s'il te plaît, pour qu'on voit bien, merci.
Les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. L'homme a une logique, mais Dieu est au-dessus de toute chose. Souviens-toi de la croix. À la croix, il y avait deux hommes à côté de Jésus, de part et d'autre. Deux brigands, deux meurtriers, deux personnes qui avaient tué, qui étaient selon la loi, selon l'homme, selon la logique de l'homme, punissable. Mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu a pardonné à l'un. Il lui a remis ses péchés. Sur la base de sa confession de l'état dans lequel il était. Il a reconnu ses torts. Il a reconnu son état. Il a reconnu qui il était. Il a reconnu qu'il ne pouvait rien. Il a reconnu que seul Jésus pouvait le délivrer. Et Dieu a honoré sa foi. Il était punissable selon les hommes. mais pas selon Dieu. Dieu lui a fait grâce. Ainsi, peuple de Dieu, il est temps de reconnaître que tu ne peux rien, que seul Dieu est tout puissant et que seule la grâce de Dieu peut te sauver. Nous n'avons pas de propre justice, nous ne pouvons rien faire. Malgré tout ce que nous pouvons faire, toutes nos tendances à la sainteté, seul le sang de Jésus peut nous purifier. À lui seul soit toute la gloire.
On va répondre à cet appel de reconnaître avec un chant, ça tombe vraiment bien, qui dit « Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens ? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence ? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras, j'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. » Puis le chant va dire aussi, « J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi, Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. » Que Dieu nous aide à voir au-delà, comme il a été dit, que nous puissions vraiment continuer à réaliser qui est Dieu, ce qu'il a fait, et qu'il n'est pas question de nos forces, nos performances, notre qualité, notre grandeur de sainteté, mais il est question de Jésus. Amen. Vous êtes avec nous, Église ? Oui ? Amen.
Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens ? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence ? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les. Toi Dieu parfait,
tu te tenais
au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil, car je le sais. J'ai entendu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire.
J'aimerais juste nous inviter à quelque chose alors qu'on dit mes yeux ont vu, j'ai entendu. J'aimerais nous rappeler à quelque chose que Jésus a fait dans votre vie. Comme ça, on ne fera pas que juste chanter, mais on chantera avec un contenu de dire, mais oui, mes yeux un jour ont vu ta gloire. Peut-être pour vous, vous étiez comme moi, pris dans la drogue, vous ne saviez même plus comment vous en sortir, vous aviez tout essayé. L'amour, l'abstinence personnelle par les propres forces. Vous aviez tout essayé, vous n'arriviez pas à vous délier de ces chaînes de la drogue. Et un jour, par la grâce de Dieu, vous avez entendu l'évangile, vous avez cru dans l'évangile, vous êtes tourné vers le Dieu de l'évangile et Jésus est venu libérer de vos chaînes. Peut-être pour certains, c'est le jour de votre salut. Peut-être le jour où vous avez rencontré, goûté combien Dieu est bon pour la première fois. Peut-être certains, c'était la semaine dernière. Vous avez fait une prière, n'est-ce pas, Olive? Vous avez fait une prière parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie aussi et Dieu a été fidèle. Vous avez fait une prière. Puis ça faisait quand même quelques jours, quelques semaines, vous priez pour ça et vous ne voyez rien arriver. Et puis tout d'un coup, la délivrance est venue, Dieu a répondu à votre prière, Dieu a été fidèle. Alors juste avant de reprendre ce pont, juste de réfléchir un instant, j'ai entendu mes yeux ont vu ta gloire. Et peut-être vous vous dites, mais moi j'ai rien vu de la part de Dieu. Tu peux expérimenter la présence de Dieu ce matin et voir sa gloire. Concrètement, ton âme peut être visitée par l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la liberté de Dieu. Alors toi qui es disciple de Jésus, qui marche avec Dieu, peut-être souviens-toi une fois où Dieu a pourvu à tes besoins, une fois où toi-même tu as changé un aspect de ton caractère. Tu savais que ce caractère, c'était pas bon pour toi. Ça te faisait du mal, ça faisait mal aux autres. Et puis t'as prié, et puis Dieu est venu transformer certains aspects de ton caractère. Je ne sais pas. Mais un aspect, pour pouvoir après chanter, j'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Médite un instant en ton âme. Comme ça, on chantera en ayant du contenu, en ayant quelque chose vraiment à dire. Mais oui, c'est cohérent. Je proclame quelque chose qui est cohérent avec ce que j'ai vécu ou ce que je vis. Quelqu'un a vécu une délivrance, peu importe laquelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as déposé dans ton cœur. Tu as dit, mais il y a eu un avant et un après, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ça a été un premier jour pour moi. D'autres ont vu la main de Dieu sur leurs enfants. D'autres ont vu la main de Dieu au travail. Alors on va le prier maintenant. On va le confesser, on va élever Dieu avec ces témoignages qui sont là dans nos cœurs. Et on le chante ensemble, j'ai entendu.
Vous croyez qu'il est votre Dieu? Amen. Punaise, heureusement qu'il est là quand même, Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il est là pour nous façonner, pour nous enseigner, surtout pour nous aimer. C'est tellement bon et voilà, on peut pas vivre sans. Une fois qu'on a vraiment goûté, on peut pas s'en détacher. On va continuer la célébration et on a quelques petites annonces. Comme vous le savez, l'église, c'est pas que le dimanche matin. Déjà, l'église, c'est vous, c'est moi, dans la semaine, au travail, auprès de la famille, de nos voisins. Mais aussi, il y a d'autres groupes qui existent à l'EPI pour pas que vous ne soyez, pour vous restez seuls. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce qui se passe dans la semaine, vous pouvez aller au point information et on vous donnera toutes les informations. Ça fait beaucoup d'informations. Répétition, ça rime en plus. Une autre info, une autre annonce. L'église de l'EPI, elle s'associe avec l'association Open Smile de Calais et qui récolte des denrées, qui récolte des kits d'hygiène aussi pour des personnes qui sont en situation de migration à Calais. Alors, je sais qu'on est généreux, je sais que l'EPI est généreux. Si vous voulez savoir quoi amener, vous avez un petit flyer au point accueil, pareil, vous allez, vous le prenez et vous venez dimanche prochain encore avec toutes ces denrées, tout ce que vous aurez à donner pour les apporter, pour qu'on puisse après, avec un convoi, les amener jusqu'à Calais. On va continuer notre célébration et je vais demander à Yolande de s'approcher. On l'encourage un petit peu ce matin, on est tous avec elle. Et je vais prier pour toi, tu veux bien? Ensemble, on va se lever, on va prier pour elle, pour vraiment que Dieu nous guide. Seigneur, encore merci, vraiment merci pour ces temps de louange. Merci Père pour ta présence et merci pour Yolande. Merci parce que je suis convaincue que tu l'as choisie pour qu'elle porte du fruit, que ce fruit perdure. Et Seigneur, tu l'as bénie encore ce matin, vraiment tu l'as remplie de l'action de ton esprit et je sais qu'elle va nous bénir dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Bonjour à nos internautes aussi qui nous suivent. Le tabernacle dans l'Ancien Testament, est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Oui, normalement j'ai prévu une image, je ne sais pas si elle va passer. Il y avait combien de zones dans le tabernacle de l'Ancien Testament? 3. Le parvis extérieur, qui est le rectangle le plus grand. À l'intérieur de cette espèce de tente, au milieu, il y avait 2 zones, le lieu saint, où seul les sacrificateurs pouvaient entrer, et le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Je vous vois en train de vous dire dans quoi elle se lance cette fois, c'est pas tellement son truc ça d'habitude. Alors, le message de ce matin, c'est d'essayer de vous montrer que, en fait, nous vivons 3 zones d'intimité dans nos relations avec les autres et avec le tout autre qui est Dieu. Comme il y a aussi 3 zones très différentes dans le tabernacle de l'Ancien Testament. Moi aussi, vous avez en quelque sorte un parvis extérieur, c'est-à-dire une zone qui est ouverte à tout le monde, où tout le monde a accès. Vous avez un lieu saint où seules certaines personnes peuvent avoir accès, et il y a le lieu très saint, le lieu de tête-à-tête avec Dieu. Ce qui a déclenché ce thème, comme d'habitude, je pense que la plupart d'entre vous me connaissez maintenant, j'ai un cabinet de relations d'aide où j'accompagne les gens dans leurs difficultés. Et ce qui déclenche en général mes sujets ici, c'est ce que je rencontre dans le cadre de mon travail, des difficultés avec certaines personnes, et en particulier une difficulté, je vous en parlerai tout à l'heure, qui m'a obligée un petit peu à me casser la tête, à prier, à me dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» pour aider cette personne à cheminer. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai déficit de prise de conscience de ces différentes zones d'intimité. Alors j'ai choisi de le diviser comme ça en 3. J'ai choisi cette image du tabernacle parce que je l'avais lu quelque part et ça m'avait parlé, je trouvais que c'était intéressant. Et puis c'est mémotechnique, vous allez vous en souvenir plus facilement. Il y a quelques risques à ne pas distinguer ces zones d'intimité. Il y a le risque du mépris et de la culpabilité, je vous expliquerai tout à l'heure. Le risque de négliger certaines relations qui mériteraient d'être entretenues. Et puis peut-être un risque de manque de protection. et de subir du chantage, dépression. Voilà. Et tout ce que je vais vous dire, c'est des situations que j'ai rencontrées. L'objectif global de mes messages, de façon générale, c'est toujours de favoriser la croissance spirituelle et psychologique du chrétien. C'est mon domaine d'intervention, d'accord ? Je ne crois pas qu'il puisse y avoir croissance dans un domaine sans qu'il y ait croissance dans l'autre. Et l'objectif spécifique de ce message, c'est vraiment de vous aider à identifier ces zones, à vous donner des repères et à identifier là où il y aurait peut-être des progrès à faire. Je ne vais pas vous expliquer comment développer ces zones, ce n'est pas le sujet de ce message, mais vraiment clairement voir, tiens, là, dans ma vie, j'aurais peut-être un petit peu d'effort à faire pour aller plus loin. Mon plan, c'est simple, c'est les trois zones, le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Et pour chaque zone, on va définir ensemble de quoi il s'agit. On va l'illustrer avec la vie de Jésus, voir comment lui, il a vécu tout cela. On va voir très concrètement ce que ça veut dire dans ma vie. Je suis très pratico-pratique ce matin. Et on va aussi voir deux points de vigilance à chaque fois. Zone 1, le parvis extérieur. Le parvis extérieur, donc c'était le grand rectangle où tout le monde pouvait aller. Pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est notre vie publique. C'est à laquelle tout le monde a accès. C'est quand vous allez faire vos courses, quand vous vous promenez, quand vous êtes dehors, quel que soit l'endroit. Vous êtes en contact avec un tas de gens. C'est tout ce qui touche les contacts extérieurs, c'est mon personnage public, en quelque sorte. Alors, ce parvis extérieur, je vais essayer de définir un petit peu, comprend différentes relations. C'est donc les gens avec lesquels j'ai un contact très épisodique. Le commerçant, le facteur, la personne que vous croisez dans votre quartier et que vous ne connaissez pas plus que ça. Mais c'est aussi les connaissances, les collègues, les copains, les potes, que je vois régulièrement et avec lesquels j'ai une intimité légère. J'ai un petit peu d'intimité, mais légère. Et puis, c'est les frères et sœurs dans l'église que je côtoie, avec qui je partage quelques mots au début ou à la fin du culte, avec lesquels je peux vivre ce temps fort du culte où il y a une profonde communion, mais avec lesquels je ne suis pas intime, pas avec tout le monde. Nous sommes entre 600 et 800 dans ce culte tous les dimanches matins. Je ne peux pas être profondément intime avec tout le monde. Ce qui n'empêche pas de vivre des choses très fortes ensemble. Ce parvis extérieur, c'est aussi la zone de premier contact quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. On n'est pas intime tout de suite. Alors si on regarde Jésus, Jésus avait une vie publique, il ne vivait pas en ermite. Jésus avait des contacts avec des foules immenses. Il avait des contacts avec des adultes, des enfants, des riches, des pauvres, avec des personnes très, très différentes de lui. Des publicains, des pharisiens, des prostituées. Mais Jésus était capable d'être attentif, ouvert, avait un vrai intérêt, un vrai amour pour chaque personne qu'il croisait, même si c'était une rencontre ponctuelle. Si on prend l'histoire de Zachée, par exemple, rien ne nous dit que Zachée l'a revu. Mais à l'instant T où ils se sont croisés, il s'est passé quelque chose de fort. Il y a d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de ça. Par exemple, 2 Corinthiens 2, verset 15, il est dit d'être un parfum d'une bonne odeur. Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Un parfum, c'est quoi ? Ce n'est pas un truc que vous pouvez attraper, que vous pouvez saisir. C'est quelque chose qui flotte dans l'air et qui est agréable. C'est un peu ce qu'on devrait être. Tite 3, Paul dit « Rappelle à tous qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. » Et Romains 12, 10, « Rivalisez de respect les uns pour les autres. » L'état d'esprit. Concrètement, très pratique. C'est quoi ? C'est sourire à la caissière du magasin quand vous faites vos courses, au facteur, à la maîtresse quand vous déposez votre enfant à l'école. C'est dire un joyeux bonjour quand vous entrez quelque part, quand vous prenez votre place dans le train, quand vous entrez dans un magasin. quand vous allez au travail, que vous rencontrez vos collègues, c'est prendre peut-être le temps de saluer individuellement les collègues. C'est s'intéresser à l'autre. Prendre le temps de papoter avec les voisins. Nous, en face, on a des voisins qui frisent là 80 ans maintenant. Et chaque fois que je les croise, je prends du temps pour voir comment ils vont, leur santé. Leur rappeler qu'on est là, si jamais ils ont besoin. Pensez aux anniversaires, aux dates importantes. Quand on écoute les gens, on sait qu'il y a des échéances dans leur vie. Et parfois, simplement y penser, envoyer un petit SMS pour leur dire « je pense à toi aujourd'hui ». C'est rendre service, proposer de garder les enfants, faire du covoiturage, ce que beaucoup font déjà ici pour venir au culte, arroser le jardin quand vous êtes en vacances, partager aussi des plaisirs ensemble, s'inviter à manger, faire une balade, une soirée jeu de société, et bien sûr aussi prier ensemble, témoigner de sa foi. Tout ça, ça fait partie de cette zone 1. Notre service écoute et prière, qui a lieu à la fin de chaque culte, fait partie de cette zone 1. Vous avez une équipe qui est là pour vous, 100% pour vous. On ne vous connaît peut-être pas quand on prie avec vous, mais à cet instant T, vos besoins, ce que vous exprimez, ça devient l'objectif et l'intérêt numéro 1. Alors, 2 points de vigilance. Avoir du mépris pour cette zone. Ça peut paraître bizarre, pourtant, je rencontre des personnes qui n'aiment pas cette zone-là, parce qu'ils la trouvent superficielle, inintéressante. Trouvent les relations nulles. Et si j'ai cette attitude-là, je risque de m'exclure, de me mettre un petit peu dans une position haute, un peu arrogante, qui regarde les gens de haut, et j'ai envie de dire, c'est tout l'inverse de l'attitude de Jésus. Je pense à un monsieur que j'ai accompagné il y a une quinzaine d'années déjà, la quarantaine, célibataire, qui désespérait de rencontrer une épouse, qui était très actif, il faisait partie de beaucoup de groupes, faisait beaucoup de choses. Mais il détestait cette zone. Et je dis, c'est la zone du premier contact. Et il voulait tout de suite être très intime dans la relation avec lui. Et il faisait fuir toutes les femmes. Cette zone-là, quand on l'investit, n'a rien de superficiel. Moi, je crois et je suis vraiment convaincue qu'elle rend la société, la vie en société, lumineuse et agréable. Et je crois que nous avons pleinement notre place en tant que témoins du Christ à prendre. Nous sommes, par notre attitude, sel et lumière de la terre, dans cette zone-là. Le monde est tellement accablé. Et moi, je sais que parfois, je suis juste réjouie parce que je croise quelqu'un que je ne connais pas et on se fait un sourire comme ça, pour rien. Ça fait tellement du bien. Donc, pas avoir de mépris. Deuxième point de vigilance, se sentir coupable. Ça peut paraître bizarre aussi, mais j'ai rencontré des personnes qui, justement, à l'inverse, se sentent coupables parce qu'elles ne peuvent pas donner à fond, partout et à tout le monde et tout le temps. Et j'ai envie de dire, relax, c'est impossible. C'est impossible et c'est encore, j'ai envie de dire, moins possible aujourd'hui que jamais parce qu'on rencontre énormément de monde. Notre aîné de 26 ans, je pense, a rencontré plus de gens du haut de ses 26 ans que ma mère du haut de ses 84 ans. Okay ? On ne peut pas être en contact dans la durée, dans l'intensité avec tout le monde. Moi, j'ai pensé à un week-end de formation que j'avais fait il y a quelques années, où j'avais vraiment vécu des temps de partage avec quelqu'un, c'était génial, et on s'est senti très proches. Puis le week-end est passé, on n'a pas gardé des liens, c'est juste mission impossible, on se fait un petit coucou sur Facebook de temps en temps, mais voilà, ça n'enlève rien à la qualité de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Je crois qu'il faut accepter cette notion de relation à géométrie variable. C'est mon dada, c'est ma phrase. On l'avait abordé au Women's Day en parlant de l'amitié aussi il y a quelques années. On a des relations diverses, d'accord ? Et toutes ces relations viennent nourrir, d'une manière ou d'une autre. Et dans cette zone 1, ces relations viennent nourrir notre lien à l'humanité. Nous ne sommes peut-être pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et être reliés les uns aux autres, c'est hyper important. Donc si je récapitule, le parvis extérieur, Est-ce que je suis quelqu'un d'accessible, d'ouvert, d'aimable, d'aimant, d'attentionné? Suis-je sel et lumière dans ce monde juste par ma manière d'être, de me comporter avec les autres? Attention tout particulièrement à pas mépriser cette zone et à ne pas me sentir coupable non plus de ne pas pouvoir être en lien profond avec tout le monde. La zone 2, le lieu saint. Dans le tabernacle, c'était réservé aux sacrificateurs et monsieur et madame tout le monde ne pouvaient pas y entrer. Et cette zone représente pour chacun d'entre nous un degré d'intimité qu'on ne partage pas non plus avec tout le monde. C'est une zone dans laquelle seules les personnes autorisées ont le droit d'entrer. Celles avec lesquelles je me sens assez en sécurité pour m'ouvrir, pour me rendre vulnérable. Alors, il y a plein d'expressions que je pourrais utiliser, hein. C'est mes amis intimes, souvent les personnes avec lesquelles j'ai une histoire, parfois longue. C'est le noyau dur autour de moi. C'est les personnes de confiance. C'est les frères d'armes. J'ai entendu nos pasteurs parler ces termes-là, les frères d'armes. Ça peut être le groupe de maison, ça ne l'est pas forcément, ça prend du temps. Mais ce serait génial que le groupe de maison soit dans cette zone-là, c'est-à-dire un lieu où je me sens de plus en plus en confiance pour m'ouvrir et oser parler de moi. Mon groupe d'engagement, de service. Mais là aussi, il peut y avoir, tout n'est pas sur le même plan, il y a aussi des géométries variables. On va le voir dans la vie de Jésus. Jésus avait le cercle large des personnes qui le suivaient. Et dans ce cercle-là, il y avait des femmes. Puis, il y avait quoi ? Le groupe des 12 avec lesquels il avait une relation particulière. Et à l'intérieur du groupe des 12, il y avait les 3, Pierre, Jacques et Jean, qui ont vécu des choses particulières avec Jésus que les autres n'ont pas vécues. On peut certainement dire que Jésus était particulièrement proche de Marie, Marthe et Lazare. C'était des amis chers à son cœur où il avait du plaisir à aller chez eux. Avec chacune, à chacun de ces cercles dans cette zone 2, Jésus vivait des choses particulières, vivait quelque chose de profond et il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est différent. Concrètement, dans cette zone, qu'est-ce qu'on fait ? On se consacre du temps, d'une manière ou d'une autre. Jésus passait du temps avec les gens, en tout cas avec tous ses cercles proches. Dans cette zone, on partage ce qui nous enthousiasme. Ça peut être le dernier livre que j'ai lu, un message que j'ai entendu qui m'a impacté, ce que Dieu a fait dans ma vie, les expériences que j'ai vécues. Ça peut être un film que j'ai regardé, qui m'a touché, qui m'a interpellé, que j'ai envie de partager. Donc on partage son vécu, ses sentiments, ses projets, ses rêves. C'est aussi la zone où on va chercher conseil. C'est la zone où on va permettre aux autres de nous reprendre, de dire « Oh là, pas tout à fait d'accord avec toi » ou « Je ne comprends pas trop pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu fais ça ». On prie les uns pour les autres. On cherche ensemble la pensée de Dieu pour une situation. Je trouve, alors les pasteurs, je ne vous ai pas demandé votre avis de dire ça, hein, mais je trouve très rassurant de savoir que nos pasteurs ont des amis proches. J'ai connu des générations de pasteurs, et je ne parle pas de Michel Schneider, là je ne sais pas du tout pour la vie de Michel, mais j'en ai côtoyé des pasteurs d'une autre génération qui n'avaient pas d'amis. Et qui tenait même cette pensée, cette théorie qu'un pasteur ne peut pas avoir d'amis. C'est faux. Jésus avait des amis, avait des gens proches de lui. Deux points de vigilance dans cette zone. Le premier, c'est la négligence. Le conjoint, les enfants, la famille, de fait, sont dans cette zone-là. Il y a une proximité. C'est important de prendre soin de cette intimité. Entretenir une relation, ça demande de l'intentionnalité. Ça veut dire que je veux le faire, d'accord ? J'ai envie de dire, c'est pas normal, par exemple, qu'un conjoint se trouve relayé dans la zone 1. Donc, premier point négligence, je vais pas développer plus. Deuxième point, c'est le risque de pression, de chantage, de forcing. Et là, je vais développer un peu plus parce que je l'ai rencontré plusieurs fois ces derniers temps et ça me choque quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut vous forcer à devenir intime, qui s'impose à vous, d'accord ? Qui vous harcèle pour que vous racontiez votre vie, qui vous harcèle parce que cette personne aurait envie que vous l'embarquiez avec elle dans tous vos groupes, dans tous vos réseaux, dans toutes vos fêtes ou je ne sais pas quoi, qui s'impose en quelque sorte. On ne peut pas s'imposer dans une relation. On ne peut pas obliger quelqu'un à devenir notre ami. Si j'ai envie d'être l'ami de quelqu'un, je dois déjà moi être cet ami. Mais je ne peux pas l'imposer. Je ne peux pas l'arracher de force à l'autre. Personne ne peut forcer le passage de cette zone. C'est moi qui ai la clé, qui laisse entrer ou pas. Et je ne peux pas développer ça ce matin, mais nous devons apprendre à poser de saines limites aux autres. Je vous donne juste l'exemple de Jésus avec Pierre. Pierre faisait partie du noyau des trois, d'accord ? Et un jour, il s'est permis de dire à Jésus, « Oh, ben Jésus, je crois que tu te plantes, hein, tu ne vas pas aller à Jérusalem. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui met un stop net. Non. Arrière de moi, Satan, etc. Est-ce que ça a cassé la relation entre Pierre et Jésus ? Non. D'accord ? Alors, je vais donner deux exemples. Et c'est cet exemple premier qui m'avait fait vraiment réfléchir à cette situation. Je n'accompagne pas d'enfants, ne m'envoyez pas d'enfants, d'accord ? Mais là, dans une situation particulière, j'ai été en contact avec une jeune enfant de 13 ans, adolescente. Situation de parents divorcés. Et un des parents faisait vraiment du chantage et une espèce de harcèlement sur cet enfant pour tout, absolument tout savoir ce qui se passait chez l'autre parent, mais dans les moindres détails. Et ce que je dis là ne concerne bien sûr pas des mensonges ou des choses qu'on cache à ses parents. Mais c'était terrible. Cette jeune fille est venue me voir et cette jeune fille avait donné son cœur à Dieu et voulait sincèrement suivre Dieu et ne voulait pas mentir. Elle avait cette hantise de mentir. Et elle est venue me demander, mais Yolande, est-ce que je suis obligée de tout dire ? Donc j'ai essayé de lui expliquer qu'on avait tous un jardin secret, que voilà, on n'est pas un livre ouvert que tout le monde doit lire, etc. Enfin, j'ai essayé de lui expliquer de toutes les manières, ça ne l'a pas convaincue du tout. Elle était là, mais non, mais... Ah, et elle revenait à la charge, Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui est juste selon toi ? Bien sûr que les enfants doivent obéir aux parents, etc. Et le passage qui m'est venu, c'est, j'ai oublié de regarder, c'est dans Apocalypse 2, je crois. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus, le Seigneur, le Maître, il rentre pas de force. Il toque, il frappe, il demande à entrer. Mais c'est nous qui ouvrons la porte ou pas. D'accord ? Si Jésus le fait, nous devons aussi le faire par rapport aux autres. Nous ne sommes pas obligés d'ouvrir la porte à tout et à n'importe quoi et à n'importe qui. Je vais donner un autre exemple. Sincèrement, je sais que je vais mettre les pieds dans le plat, mais je me dis, Seigneur, je le laisse ou je le dis. Je le dis. Les relations entre parents, enfants, petits-enfants. Il y a énormément de conflits familiaux, même dans le milieu chrétien. Et je sais qu'il y a des droits de visite, des droits d'un tas de trucs. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser, il ne faut jamais utiliser ces droits. Mais j'ai vu tellement de situations douloureuses où les gens se cramponnaient à leurs droits et forçaient le passage. Vous ne pouvez pas, même si ça vous crève le cœur d'être en rupture relationnelle, imposer la relation avec son enfant, son petit enfant, ça ne marche pas. Vous allez peut-être obtenir gain de cause au niveau de la loi, mais ça ne marche pas. Il vaut mieux se mettre à genoux et prier et déjà peut-être se demander ce qui s'est passé pour en arriver là, et simplement demander à Dieu d'intervenir. Je ferme la parenthèse. J'ai conscience qu'il y a des personnes qui auront plus de facilité que d'autres dans cette zone-là. sans vouloir faire de caricature, messieurs, vous avez parfois un petit peu plus de difficultés. Alors, ne venez pas dire que c'est un truc de bonne femme, parce que Jésus, il était très à l'aise dans cette zone. Si on a vécu des blessures dans son histoire, dans son enfance, au niveau relationnel, c'est sûr que là, il y aurait un travail à faire et que ce n'est pas simple de devenir intime avec quelqu'un. Je résume, zone 2, la zone des relations plus proches, plus intimes, les personnes qui comptent pour moi, auxquelles je consacre du temps. Ce n'est pas pareil forcément avec tout le monde. C'est une zone dans laquelle je m'ouvre, je m'expose. Attention au risque de négliger cette zone. Attention à ne pas accepter de pressions qui n'ont pas lieu d'être. Et on arrive à la zone 3, le Saint des Saints. Celle qui était réservée au souverain sacrificateur dans le tabernacle. Nous concernant, c'est notre lieu d'intimité le plus profond. Seul Dieu y a accès. Hébreux 4, 13 dit « Tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu ». Dieu, il sait tout. On a encore parfois l'illusion qu'on peut se planquer, hein, mais tout est à nu. Et vraiment, je pense de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans ma foi, c'est de se dire « Tout est à nu, tout est à découvert. » Et pourtant, je suis 100% en sécurité dans cette relation. J'aimerais pas être à nu et à découvert devant d'autres. Et pourtant, avec Dieu, je suis complètement accueillie et 100% en sécurité. Matthieu 6, 6 dit « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. » La pièce la plus retirée, ça peut être un lieu physique dans votre appartement, dans votre maison, où vous vous isolez quand vous avez envie d'avoir un temps de prière. Mais c'est aussi un lieu intérieur, au plus profond de nous-mêmes. D'accord ? Dieu habite en moi par son esprit et je peux me retirer quelque part au plus profond de moi pour avoir cette communion avec Dieu. Le Saint des Saints, c'est mon lieu de ressourcement. C'est le lieu où je vais pouvoir faire le tri. Je vais pouvoir digérer mon vécu. Je vais pouvoir me laisser sonder par Dieu. Ce temps, cette zone-là, c'est la zone qui me donne de la marge dans la vie. C'est tellement important dans notre vie où on est tout le temps à 1000 à l'heure, d'avoir de la marge, une zone tampon où on ralentit tout, on prend le temps, on se pose. C'est aussi le lieu de mes combats. C'est là où je peux prendre position, c'est là où je peux refuser, je peux annuler, je peux renoncer. Je peux proclamer, je peux réclamer des choses au Seigneur. Je peux mourir à moi-même en lâchant prise certaines choses. Jésus s'isolait de tout le monde régulièrement. C'était son temps de ressourcement aussi. Ça lui permettait de connaître la volonté de Dieu, de connaître les œuvres préparées d'avance par Dieu pour lui. Jésus disait qu'il ne faisait que ce que Dieu lui montrait de faire, mais c'est dans ces temps-là que Dieu lui montrait. Concrètement pour nous, avoir une saine discipline, ce n'est pas du légalisme. Mais la discipline, les sportifs savent que ça, sans discipline, ça ne marche pas. On n'a pas toujours envie d'aller à la salle de sport, il faut se discipliner. Niveau alimentaire, il y a de la discipline. La discipline fait partie de la vie. Si on veut atteindre quelque chose, en général, il faut se discipliner. Ça n'a rien à voir avec du légalisme. C'est prendre du temps avec Dieu, lire la Bible. Lire la Bible soi-même. C'est Matthieu, tu dis souvent ça, c'est bien d'avoir des méditations, d'écouter des messages, etc. Mais tout ça, c'est du prémâché par d'autres. D'accord ? Donc c'est bien. Mais en même temps, il faut lire la Bible soi-même pour être confronté à la parole, pour que Dieu nous parle. Alors, vous avez entendu des centaines de messages là-dessus. Vous savez par cœur tout ce que je suis en train de dire. Alors, je me dis, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour vous donner envie ? Parce qu'en discutant avec différents responsables qui accompagnent des personnes, souvent dans l'Église, on se rend compte que c'est quelque chose qui est loin d'être installé dans la vie de beaucoup de chrétiens. Cette régularité dans la parole, dans le contact avec Dieu, dans le tête-à-tête avec Dieu. Alors je me suis dit, qu'est-ce que, peut-être en discutant cette semaine avec quelqu'un qui se reconnaîtra, on disait que peut-être ça vous paraît peut-être trop formel, ce côté temps avec Dieu. Et si vous pouviez envisager ce temps avec Dieu comme une conversation avec quelqu'un que vous aimez, quelque chose de simple. Cette semaine, un matin, je me suis réveillée un peu avant le réveil, j'étais dans mon lit, enroulée dans mon drap, et je papotais avec le Seigneur. Voilà, je pensais à la journée qui venait, je pensais à ça. Et il y a même des pensées spécifiques qui sont venues pour prier pour l'une ou l'autre personne. Je ne suis même pas sûre que je ne me sois pas rendormie après. Mais c'était tout simple. Il y a des saisons de vie aussi. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Alors, quand je parle de discipline, c'est inscrit dans mes gènes, donc je n'ai pas de mérite du tout. Donc, prendre du temps avec Dieu, c'est quelque chose que j'ai fait très jeune dans ma vie chrétienne. Mais alors, ma jolie discipline, elle a pris un coup le jour où j'ai eu des enfants. Ah, je ne dormais pas beaucoup la nuit. Tous mes horaires, ils étaient en vrac. D'accord ? Et puis surtout, je ne pouvais pas m'asseoir et lire la Bible parce que dès que je m'asseyais, je m'endormais. J'étais tellement fatiguée. Donc, qu'est-ce que j'ai appris à faire ? Un enfant dans les bras et je priais en marchant dans l'appartement ou dans la maison. Aujourd'hui encore, quand j'ai des problèmes de sommeil, je sors me promener à l'extérieur et je prie. J'ai juste envie de vous donner envie de cette relation avec Dieu de manière toute simple. Alors bien sûr, pour lire la Bible, et encore, je me dis, aujourd'hui avec les téléphones, vous pouvez même marcher, peut-être lire votre Bible sur le téléphone, vous n'avez même pas besoin d'emmener un bouquin, peut-être lourd à porter. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des temps où il faut lire la Bible, se poser, etc. Et puis il y a ces temps de communion tout simple avec Dieu. Cette rencontre à l'intérieur de nous, on peut l'avoir tout le temps. On peut tout le temps parler à Dieu dans n'importe quelle situation. Je parle souvent à Dieu pendant mes accompagnements. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Deux points de vigilance. Ne pas négliger cette intimité, comme tout à l'heure. Si je néglige cette intimité, je ne serai pas puni. Je ne vais pas perdre mon salut. Mais je ne vais pas grandir beaucoup dans la foi. Je vais rester un bébé spirituel. Et honnêtement, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie spirituelle, si vous êtes encore un bébé, c'est un peu lourd à porter. D'accord ? Mon niveau de joie, de paix, de satisfaction, de victoire dépend de ce temps passé d'intimité, dans cette zone d'intimité avec Dieu. Donc ça, c'est le premier point, ne pas négliger cette intimité. Et le deuxième point, alors pareil, ça j'ai rencontré plusieurs fois, il ne faut pas que ce soit déconnecté du reste de la vie. Dans la Bible, il y a une tentation comme ça. Pierre, Jacques et Jean, sur le mont de la Transfiguration, ils avaient envie, qu'est-ce qu'ils avaient envie ? De rester. On construit une tente, on reste là. Surtout, on ne retourne plus dans la vie normale. C'est trop bien. Et j'ai accompagné quelqu'un, un couple, dont l'épouse aimait ces temps de bulle avec Dieu. J'appelle ça de temps de bulle avec Dieu. Mais son mari me disait, mais il est tellement infect après. Moi, ça ne me donne pas envie d'aller à l'église. Il y avait comme une déconnexion. L'attachement à Dieu doit se traduire dans notre comportement envers les autres. Le test de ma spiritualité se fait au contact des autres. Dans 1 Timothée 5, Paul parle des veuves, mais je pense qu'on peut l'étendre. Hein. Il dit, les chrétiens doivent montrer leur attachement à Dieu en s'occupant des personnes de leur famille. Leur attachement à Dieu se traduit concrètement. Il n'y a pas d'attachement à Dieu sans concret, sans démonstration concrète. Autre exemple peut-être de cette déconnexion, le nombre d'adultes, enfants de leaders d'église, je parle au sens très large là, qui bataillent dans leur foi parce qu'il y avait un tel décalage entre ce que papa, je dis papa parce qu'il n'y avait pas trop de femmes à l'époque sur l'estrade, d'accord, entre ce que papa disait du haut de l'estrade et la réalité vécu au quotidien. Je ne dis pas qu'on doit être parfait, d'accord ? Mais l'esprit de l'évangile, nous devons le vivre, pas seulement en parler. Alors je récapitule, zone 3, zone de mon intimité avec Dieu, le tête-à-tête avec Dieu. Donc j'ai intérêt à cultiver ce tête-à-tête, à avoir des rendez-vous réguliers, privilégiés avec Dieu, mais je peux aussi communiquer avec lui non-stop, tout le temps. Et je crois que la qualité de vie de ce qu'on va vivre dans ce moment-là va irradier toutes les autres zones de ma vie. Il ne devrait pas en tout cas, y avoir de gouffre entre ma relation verticale et ma relation horizontale. Je vais conclure, peut-être le groupe peut monter. Trois zones d'intimité. On a vu la dernière, la zone 3, je vais faire à l'envers maintenant. Cette zone de tête à tête avec Dieu qui va venir alimenter tout le reste. Et si la petite vidéo peut passer, c'est possible. Il y a des pyramides de verre et on verse le champagne en général et ça coule. Et pour moi, c'est une belle illustration de le premier verre, c'est notre relation avec Dieu. Et quand ce verre-là, tu vois ma tête et ma coupe déborde. Et ça va déborder sur la zone 2. Ça peut être plusieurs rangées de verres. Zone 2 de relations privilégiées, prof, ça va venir nourrir ses cœur à cœur avec les autres. Et ça va venir jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière rangée de verres, qui est beaucoup plus large, cette zone 1 de ma vie publique, où je suis invitée à être le sel et la lumière du monde. Dans quelle zone es-tu défié, toi, ce matin, à faire des progrès ? Peut-être que tu dois accepter qu'il y a différents degrés de relation et d'intimité avec les personnes et qu'il n'y a pas un seul modèle qui est valable. Peut-être que tu dois t'extraire de certaines culpabilités. Peut-être que tu dois développer, muscler certaines intimités. Peut-être que tu dois apprendre à poser des limites à d'autres, à garder, à préserver ta vie privée. Je vous laisse juste quelques secondes. Et Mathieu, tu termines par la prière ?
On se donne le temps de la réflexion par rapport à ce qui a été dit là. On se donne vraiment le temps d'entrer en nous-mêmes, de méditer ce message. Et derrière, on prendra le temps de prier, de chanter un chant qui justement interpelle sur les différences qu'il peut y avoir entre qui je suis et qui je deviens. Mais je sais que je ne serai jamais seul dans les zones 1, 2 et 3. Je vous invite peut-être à vous lever. Et juste prendre un temps, on va psalmodier un peu, on va jouer de la musique. Et dans ce temps de musique, réfléchir un petit peu dans les différentes zones où je suis aujourd'hui, tous les points de vigilance qui ont été partagés, les points où on nous interpelle à ne pas négliger certaines zones au détriment d'autres, à ne pas nous déconnecter dans notre soif, notre recherche d'être au cœur de la présence de Dieu, en oublier qu'il y a tout un contact avec l'humanité, avec les gens autour de nous. Ce décalage entre notre foi, notre vie, nos aspirations et ce qu'on délivre concrètement dans notre quotidien, que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous voulons entendre ce que tu nous dis. Il y a Yolande qui a cité l'Apocalypse et à un moment donné, il y a cette interpellation que l'Église puisse entendre ce que tu veux lui dire. Tu es ce Dieu qui frappe à la porte de notre cœur et tu viens nous interpeller sur les dimensions relationnelles de notre vie ce matin. J'imagine que personne n'est parfaitement parfait dans ces trois zones. Alors je te prie pour moi, je te prie pour là où j'ai besoin de plonger ma confiance en toi, j'ai besoin d'être encore plus congruent, cohérent entre mes actions, mes paroles. Je te prie, Seigneur, de m'accompagner quand et nous accompagner quand on traverse là le feu, quand c'est compliqué de vivre les standards de Dieu et quand je vis la réalité que je vis. Quand je suis tenté de trouver des excuses. Seigneur, tu nous interpelles ce matin et tu nous interpelles dans le lieu secret de nos cœurs, là où personne ne voit profondément qui nous sommes véritablement, Seigneur. Et voilà, fais ton œuvre. Continue ton œuvre dans nos vies, Seigneur Jésus, c'est notre prière. Continue ton œuvre dans nos vies. Continue à nous apprendre à marcher avec toi, d'être cohérent dans toutes les sphères de notre vie. D'être entier, Seigneur. Que celui qu'on professe ne reste pas juste un créneau dans la semaine, mais que vraiment cela se décline dans tous les aspects de notre vie, avec nos proches, les enfants, les petits-enfants, avec nos parents, nos grands-parents. Seigneur Jésus, merci de nous accompagner, s'il te plaît. Je crois vraiment que tu veux faire une œuvre de guérison ce matin. Que l'Église a besoin de guérir, a besoin de continuer de guérir, d'être transformée à ton image. Alors fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre dans nos vies, dans nos relations. On puisse être comme Marie qui, à un moment donné, serrait ce que Siméon et Anne ont pu dire sur le Christ. Aide-nous à serrer ce qu'on a entendu sur toi ce matin, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous inspirer du modèle que tu as été sur terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous voulons apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur Jésus. Fais profondément ton œuvre en nous, Seigneur, parce que tu es notre berger. Et nous voulons le dire avec foi, dans nos relations, nous ne manquerons de rien, Seigneur. Tu nous conduis dans de verts pâturages. Oui, Seigneur, accompagne-nous. Merci pour cette célébration où on peut vivre des temps profonds d'introspection, des temps de réflexion pour que, alors que nous nous rassemblions, nous ne soyons pas pires, mais nous soyons meilleurs, Seigneur. Merci pour ce message, merci pour le prolongement que tu vas nous permettre de vivre et cette image qu'on gardera du tabernacle pour que ces trois zones soient ces lieux où nous sommes en transformation, en chantier, pour te donner gloire à toi et pour être une bénédiction pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Amen.
Grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout s'ouvre autour de moi, et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi. T'es présent dans ma tombe, à tes amis. Et si m'arrive un jour, de prier pour moi, il y a la croix qui porte à l'endroit. Il se fait voir à ma place, il est avec jamais seul, il est avec moi dans le feu.
j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent.
Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.
Voilà notre espérance ce matin. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus.
Il n'y a aucun autre nom que
le nom de Jésus.
Lui qui était, qui est et sera à jamais.
Peu
importe ce qui viendra, entre qui je suis et qui je deviens. Oui, je sais que je ne serai jamais. Je sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve. Car je sais que tu es là.
Je vois la lumière.
Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui.
J'entends dans les cieux un rugissement, car sa gloire nous envahit.
Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer.
Sera avec moi.
Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés.
Il sera présent dans la tempête,
apaisant les mers.
S'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers.
Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
Je me réjouirai
même dans l'épreuve, car
je sais que les zones peuvent être des épreuves, mais proclame-le.
Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu...
Une dernière fois, Église.
Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
Amen.
Alors, on a quelques petits exercices pour cette semaine. C'est entretenir et faire attention à nos trois zones de relation. Amen. Et on peut commencer après la célébration en se saluant d'un saint baiser, en prenant un peu des nouvelles des uns des autres. Pas forcément des personnes qu'on connaît, mais des personnes que peut-être on n'a pas l'habitude de saluer d'un saint baiser. Alors, je vous invite à le faire. Merci Yolande, merci beaucoup. Vraiment merci pour cette parole, que ça puisse germer durant toute la semaine, que ce soit pas quelque chose qu'on oublie, mais qui puisse germer, grandir en nous toute cette semaine. Si vous voulez, si ce message vous a travaillé, vous interpellé, ou si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, quelque chose, vous savez que vous avez l'équipe Écoute et Prière qui se tiendra sur votre droite pour vous écouter et pour prier avec vous. En tout cas, on vous souhaite un bon dimanche aux internautes, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.